Bonsoir. Dans un rapport publié vendredi dernier, l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE affirme que plusieurs centaines de millions de dollars perçus chaque année par les régies financières dans les entreprises extractives ne sont pas déclarés au trésor public. Quelle analyse faire de cette déclaration de l'ITIE? Pour en parler, nous recevons le professeur Mac Doumba Jérémy, coordonnateur national de l'ITIE. Bonsoir, monsieur Doumba.
Bonsoir, mon ami.
Bienvenue, Marie Bakoumania, directeur du desk économie au groupe de presse Le Potentiel et analyste économique. Monsieur Bakoumania, bonsoir.
Bonsoir, Alain.
Michel Somoué, analyste économique et administrateur délégué général de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises congolaises. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Merci déjà pour vos réactions. Moïse Traoré Moussafiri, des centaines de millions de dollars échappent au contrôle de l'État pendant que nous manquons même de l'eau potable pour nos familles. Bagelor Chibangu de Kinshasa, c'est le manque de patriotisme et cela fait honte pour notre pays, la RDC. Je demande aux autorités d'avoir la conscience patriotique afin d'éviter ce genre de pratique. Kevin Kouté est à la réalisation, assistée de Samuel Kachak et Dieudonné Nyangassa à la technique. Merci de votre attention.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Plusieurs centaines de millions de dollars perçus chaque année par les régies financières dans des entreprises extractives ne sont pas déclarés au trésor public. C'est ce qu'affirme le rapport 2008-2009 de l'initiative pour la transparence des industries extractives rendu public vendredi dernier à Kinshasa. À l'issue d'une enquête dans quelques entreprises minières et pétrolières, l'ITIE constate des grands écarts entre le montant que les entreprises minières ont déclaré avoir payé à l'État et celui que les régies financières ont déclaré avoir encaissé. L'essentiel de ce rapport avec vous, Samuel Kachak.
À l'issue d'une enquête menée dans quelques entreprises minières et pétrolières, l'ITIE RDC a affirmé avoir constaté des grands écarts entre les sommes que les entreprises minières ont déclaré avoir payées à l'État et celles que les régies financières ont déclaré effectivement avoir encaissées. Le coordonnateur national de l'ITIE RDC, Marc Jérémy Doumba, a expliqué à Radio Okapi qu'il y a beaucoup de paiements qui ne se sont pas renseignés au niveau du trésor public. Il a plaidé pour plus de transparence dans la gestion des fonds collectés sur les quelques entreprises minières et pétrolières en RDC. L'ITIE RDC a reconnu qu'il y a eu aussi de la tricherie dans le chef des entreprises. Certains d'entre elles ont présenté des fausses preuves de paiement. Par ailleurs, Marc Jérémy Doumba rapporte que l'ITIE RDC a été confronté sur le terrain à la résistance de certains entrepreneurs. 37 entreprises minières avaient déposé officiellement leur déclaration selon le deuxième rapport de l'ITIE RDC, publié en mars 2012 et portant sur la période 2008-2009. Le tout premier, publié en mars 2010, portait sur l'année 2007 et ne prenait en compte que le cuivre et le pétrole. 26 entreprises extractives avaient accepté de communiquer leurs recettes réalisées en 2007 selon la même source. Pour rappel, l'ITIE est un mécanisme qui permet de comprendre le fonctionnement des secteurs extractifs, les régimes fiscaux des minéraux, les accords contractuels ainsi que la distribution des revenus. La RDC y a adhéré en 2005.
Merci Samuel Kachak. Professeur Marc Doumba, je rappelle que vous êtes coordonnateur national de l'ITIE. Nous allons faire beaucoup de pédagogie parce que l'émission a également un caractère pédagogique, professeur. En termes simples pour les auditeurs qui nous suivent, c'est quoi l'ITIE?
Merci Alain. ITIE, très simplement, c'est tout simplement une norme qui établit les paiements que les entreprises extractives principalement. Par extractives, il faut entendre les entreprises qui exploitent les ressources naturelles, notamment les mines, le pétrole, la forêt par exemple et le gaz. Tout ce que toutes les entreprises qui exploitent les ressources naturelles payent à l'État, ces entreprises le déclarent. Et tout ce que l'État a reçu de ces entreprises extractives, l'État aussi le déclare à l'initiative, qui établit donc la norme de rapprochement. On prend ce que les entreprises ont déclaré et ce que l'État a déclaré dans notre État. Il s'agit des régies financières qui perçoivent les impôts et les taxes. On compare ce que les entreprises ont déclaré et ce que l'État a déclaré comme reçu au titre des revenus dont je viens de parler. Et on regarde s'il y a des écarts et on essaye, en publiant cela sur la place publique, que la société civile cherche à comprendre, à analyser les écarts qu'il y a entre les déclarations des uns et des autres. Ça, c'est l'ITIER.
Alors, professeur, la RDC a adhéré à cette initiative depuis 2005, mais pourquoi jusqu'à ce jour, vous n'avez produit que deux rapports ?
Oui, j'ai entendu dans les déclarations de notre commentateur tout à l'heure beaucoup de choses qu'il faut remettre en place. En fait, c'est une initiative, c'est un processus. Donc nous y allons lentement jusqu'à ce que nous arriverons à publier un jour, et nous le croyons fermement, les rapports sur les déclarations de toutes les entreprises extractives et toutes les recettes que l'État reçoit. Pourquoi est-ce que nous sommes seulement à ce rapport? Nous avons adhéré en 2005, il y a eu beaucoup de problèmes. En 2005, vous le savez Alain, il y avait ce problème de 1 plus 4, et on avait cru que l'initiative qui arrivait, c'était une grande entreprise où tout le monde pouvait adhérer. Il y avait 70 membres pour la gestion, et puis après ça fait la cacophonie. Donc les problèmes troubles sont partis de 2005 jusqu'en 2007. C'est seulement en 2007 que les choses ont commencé à s'éclaircir, et en 2009, le Premier ministre a pris un décret qui organise l'ITIER en RDC. À la base, se trouvait donc une mission de réglementation envoyée par la Banque mondiale, et le chef de l'État a pu prendre une ordonnance pour nommer les dirigeants de l'ITIER. C'est à ce moment-là que ça a commencé. Alors, vous ne pouvez publier que le rapport de l'an avant ou des 2 ans avant au moins. En 2009, nous ne pouvions pas publier le rapport 2008 parce que, vous le savez Alain, l'année fiscale chez nous, elle part du 1er janvier jusqu'au 31 mars de l'année qui vient après. Donc ce qui fait que en 2009, nous avons pu publier le rapport portant sur 2007. Et en 2000, normalement, en 2010, on aurait dû publier le rapport portant sur 2008, mais on ne l'a pas fait. On a publié le rapport en 2011 portant sur 2008-2009. On va revenir là-dessus, Alain.
Voilà, alors revenons à l'essentiel, un peu plus dur. Alors, plusieurs centaines de millions de dollars perçus chaque année par les régies financières dans les entreprises extractives ne sont pas déclarés au trésor public. À quoi l'ITIER attribue cela?
Alors, il faut corriger d'abord la question. Il ne faut pas dire seulement les plusieurs millions qui sont payés et que qui sont payés aux régies financières et qui ne sont pas déclarés.
C'est plutôt à vous de préciser la réponse.
Oui, d'accord. Je voudrais bien préciser, Alain. Alors, la première chose, il faut d'abord considérer que les entreprises doivent dire tout ce qu'elles ont payé. Et les entreprises, lorsqu'une entreprise, prenons une entreprise comme TFM, Tenke Fungurume, tout ce qu'elle paye à la régie financière comme DGI, DGRAD ou DGDA, au titre des droits et taxes de douane, l'entreprise dit tout ça j'ai payé à l'État. Tandis que lorsque la DGDA reçoit l'argent, par exemple, des droits et taxes sur une importation, la DGDA légalement a reçu l'ordre de toucher des services rémunératoires, des fonds qui vont les rémunérer. Alors, ces fonds-là, pour la DGDA au niveau de l'ITIER, la DGDA dit, je ne peux pas les déclarer parce que ça n'entre pas au trésor public. Tandis que l'entreprise Tenke Fungurume dit, moi j'ai payé à l'État congolais. Alors ça, c'était sur les deux bases des deux rapports. Donc, la DGDA déclare une partie qui va au trésor, et une partie, elle ne la déclare pas parce que ça rémunère les services rendus à Tenke Fungurume. Mais à partir de cette année, vous verrez aussi ce que la DGDA a perçu au titre des frais de services rendus.
Alors jusqu'au rapport dont nous parlons, ça ne facilitait pas suffisamment de clairvoyance.
Justement, ça apportait beaucoup d'écarts, parce que lorsque Tenke Fungurume déclare avoir payé à l'État 2 500 000 pour une importation, et que la DGDA déclare 2 millions, il y a 500 000 qui vont rester comme un écart. Alors nous nous disons, pour la transparence, que la DGDA dise aussi réellement ce qu'elle a reçu, même si cela n'est pas arrivé au trésor, mais que l'on sache combien ce que la DGDA a perçu au titre des services rendus.
Voilà, bienvenue Marie Bakoumania, vous êtes directeur du desk économie au groupe de presse Le Potentiel, également analyste économique. Avant de vous donner la parole, d'abord préciser aux auditeurs, à l'intention des auditeurs et internautes, que tous nos efforts pour avoir dans cette émission un délégué du ministère des Mines sont restés vains. Vous avez suivi les réponses du prof Makdoumba. On se rappelle qu'à l'examen du projet de budget actuel, le président du Sénat a déclaré ne pas voir des traces du secteur minier dans le projet de budget. Cette opacité, finalement, elle est toujours de mise.
Écoutez, l'opacité, c'est une manière de gouverner depuis un temps ce pays, et ça date de très longtemps, depuis l'époque de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Visiblement, les choses n'ont pas beaucoup évolué, mais seulement l'ITIE, qui est une initiative saluée par plus d'un, est venu aider à ce que les populations, la société civile, nous les médias, puissions avoir un peu de lumière, un faisceau d'informations sur ce qui entre est réellement dans les caisses de l'État. Bon, écoutez, le président du Sénat, évidemment, n'a pas eu des réponses, d'autant plus que, visiblement aussi, les gouvernants ont intérêt à ce que ce flou puisse continuer à persister. Et bon, écoutez, l'ITIE qui fait ce qu'il peut faire à partir des données qui lui sont présentées, ne peut pas aller au-delà. Maintenant, quand il fait son travail, il publie des rapports, et par rapport au rapport, je vais juste ouvrir une parenthèse, et là ce serait peut-être une observation adressée à monsieur Mac, au professeur Mac, pour constater que nous avons quand même noté, relevé le fait qu'il y a eu un certain recul sur le plan de la présentation du rapport, du deuxième rapport 2008-2009 par rapport au rapport 2007. Évidemment, des correctifs ont été apportés, on nous a envoyé sur le site pour avoir les ventilations exactes, mais je souhaiterais pour l'avenir que l'ITIE, le rapport ITIE, comprenne entreprise X a payé montant Y à la régie Z. À ce moment-là, nous qui analysons, nous n'avons pas en présence des agrégats, nous avons en présence des données déjà désarticulées, et on peut comprendre où est-ce qu'il y a problème, où est-ce qu'il n'y a pas problème. En deuxième lieu, par rapport toujours aux différents rapports ITIE, la grande question aussi, est-ce que le professeur Mac a des moyens de sa politique, dispose des moyens de sa politique? Ça, c'est aussi un vrai problème. C'est un vrai problème dans la mesure où ceux qui sont partie prenante à cette initiative, il y a aussi le gouvernement congolais qui, visiblement, n'est pas toujours pressé à libérer sa quote-part pour que cette transparence qui est bénéficiaire finalement à tout le monde soit régulièrement appliquée par la structure qui a été mise en place. Et vous avez vous-même compris tout à l'heure que les politiques avaient afflué avec l'intention que ça allait être une nouvelle entreprise et qu'il y avait des dividendes à se partager. Donc c'est dire que l'environnement dans lequel cette nouvelle structure, cette nouvelle habitude qui doit s'installer dans le monde des affaires, cet environnement n'est pas toujours facile. C'est un environnement qui est quelque peu difficile. Et dans ces conditions-là, c'est tout à fait normal encore que l'on constate à travers les chiffres que des millions ne transparaissent pas. Hein, c'est ce qui est tout à fait normal. Et pourtant, le devoir de transparence, parce qu'on parlera certainement du code minier, c'est aussi l'une des faiblesses du code minier. On devait avoir dans la loi, dans le code exactement, ce devoir de transparence qui est fait aux entreprises de publier ce qu'ils payent. C'est une des faiblesses qu'on a constatées dans les codes miniers. Mais aussi, pour les cas de la DGDA, est-ce qu'il faut l'excuser? Je ne pense pas. Parce que la DGDA, lorsqu'elle perçoit elle perçoit les frais de douane, les droits de douane et les droits administratifs, hein, il les reçoit en package. Hein. Ce n'est pas déjà celui qui vient payer ne paye pas par tranche, il vient payer en package et tout ça pour le contribuable dans sa tête, ça va au trésor public. Hein. La division qui est faite à l'interne, la répartition qui est faite à l'interne, ça ne concerne pas la personne qui publie. Et la DGDA, à mon sens, n'a pas intérêt à enlever les pourcentages qui lui revient sans les déclarer pour que l'on puisse avoir la conformité. Je pense que ce sont des échappatoires, des faux fouillants pour justement poursuivre cette œuvre de prédation et de corruption qu'on a toujours déplorée et que le processus ITIE, fort heureusement, nous aide à en comprendre les dessous.
Alors, bienvenue Marie Bakoumania. Il y a certains observateurs qui considèrent que la RDC est un paradis fiscal. Avec ce que l'ITIE vient de dire là, ça ne confirme pas cette assertion.
Ben, ça confirme absolument. Nous sommes un pays des contrastes. En même temps que nous sommes un paradis fiscal, en même temps, la République démocratique du Congo est un pays où la pression fiscale est la plus insupportable. Nous sommes un pays de contrastes. Qu'est-ce à dire? Nous sommes un paradis fiscal. On a vu ce qu'on a vu lors de l'attribution des carrés miniers. On les a attribués à l'appel. Et les droits, les bonus qui ont été payés, ça vaut pas grand chose. Ça vaut pas grand chose. Et là, tous les aventuriers, les investisseurs aventuriers qui ne viennent pas réellement pour investir, tous les spéculateurs ont afflué en République démocratique du Congo. D'autant plus qu'il était plus facile, grâce à la législation en vigueur, de se faire de l'argent, de se faire facilement de l'argent. Dans ce cas-là, la RDC est un paradis fiscal. Mais d'autre part, le peu d'entreprises qui acceptent de payer, de déclarer leurs bénéfices auprès des fiscs, celles-là sont asphyxiées. Il y a plusieurs taxes qui tombent à tel point que c'est comme j'ai dit au début, on est un pays de contrastes à tel point que dans ces conditions de flou, dans ces conditions de flou artistique, il est difficile d'entrevoir le développement, un développement harmonieux d'un pays qui vise justement l'émergence dans les toutes prochaines années.
Michel Somoé, bonsoir, vous êtes en ligne.
Je suis en ligne.
Voilà, vous êtes analyste économique et administrateur délégué général de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises congolaises FENAPEC, des centaines de millions de dollars qui échappent au trésor public. Comment vous expliquez ça?
Bon, j'explique ça par un certain laxisme au niveau des textes de loi, de leur application et au niveau même de leur quintessence. Je pense que je ne devrais d'ailleurs pas considérer ce que dit l'ITIE comme une vérité de l'Évangile, parce que ce sont des révélations, des dénonciations qui devraient interpeller les autorités du pays, notamment les services, je veux parler de la justice, qui devraient mener des enquêtes pour nous fixer l'opinion sur ce genre de situations qui sont tout à fait déplorables. Mais si cela est arrivé, si cela est avéré, si cela est vrai, après des enquêtes nécessaires, à ce moment-là, il y a un problème. Un problème au niveau d'avoir des textes qui permettent, j'ai suivi le directeur général de l'ETIE parler de l'exemple de la DGDA, et lorsqu'il dit que la DGDA a une certaine autorisation de se servir à la source, lorsqu'une entreprise minière paye à l'importation, la DGDA peut détenir une partie du montant destiné à l'État pour se servir. Moi, je crois que là, déjà, il y a un problème. Si il y a une loi de cette ampleur-là, elle est dangereuse. Parce qu'à ce moment-là, c'est une loi qui favoriserait quelque part, je mets le verbe conditionnel, qui favoriserait la corruption. Nous sommes en train de combattre la corruption, nous sommes en train de déplorer et de dénoncer la corruption. Et l'ITIE est venue comme une des initiatives très précieuses dans la recherche des responsables de cette corruption. Lorsqu'elle fait son rapport, comme c'est le cas, je pense que ça nous interpelle tous, en particulier les responsables des services de la justice congolaise, pour que nous puissions définitivement botter dehors ce virus de la corruption qui empêche le pays d'émerger, de quelque façon que ce soit. Comme l'a dit tout à l'heure mon prédécesseur, et même d'ailleurs, je pense que vous l'avez annoncé quelque part, des centaines de millions de dollars qui sont destinés à l'État, qui seraient détournés, enfin, excusez-moi le terme, qui seraient consommés à la source ou cachés ou camouflés par les régies financières, mais quel aurait dû être leur impact dans le budget? Et quand on sait déjà dès le départ que aucun entrepreneur, aucun opérateur économique n'est doté d'autant de bonne foi pour pouvoir payer l'intégralité de ce qu'il doit à l'État, et même déjà, ils rançonnent l'État à leur façon, à l'origine déjà, les contribuables, que sont les entreprises minières, ne payent pas l'État ce qu'ils doivent, ils payent un minimum, et ce minimum est à son tour saucissonné par des régies financières. Il y a quand même un problème, je pense que ça doit faire mal à tout citoyen, doué de bon sens, doué d'un peu de patriotisme, pour qu'on se mette debout, la société civile en particulier, pour qu'on se mette debout face à différentes situations. Mais on ne peut pas encore, avant des enquêtes nécessaires, considérer que tout ceci est vrai. Je pense que le rapport de l'ITIE a l'avantage d'ouvrir des pistes à des enquêtes nécessaires et indispensables qui doivent fixer les uns les autres sur les responsabilités des uns et des autres et sur les causes de ce genre de situation. Si elles sont d'ordre légal, le Parlement devrait réfléchir par deux fois pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour rectifier le tir, corriger les erreurs. Mais déjà, au départ, nous pensons qu'il y a déjà un minimum de bonne foi de la part de ceux qui dirigent le pays dès lors qu'ils ont accepté l'adhésion du pays à cette initiative très précieuse pour la transparence dans un pays corrompu énormément par la corruption.
Michel Soumoué, l'ITIE ne vient là pratiquement que dire ce qu'a révélé par exemple la commission sénatoriale Moutamba Dibwe, mais on a l'impression que la RDC veut la chose et son contraire. On met en place des initiatives de transparence, mais en même temps, la situation sur terrain semble ne pas changer.
Alors, le problème, c'est que, oui, c'est vrai, le sénateur Moutamba avait dirigé une commission qui avait abouti à des résultats tout à fait confirmant ce que l'ITIE, précédemment, c'est l'ITIE vient de dire, c'est une réalité. Mais vous avez dit, c'est vrai, on a l'impression que le Congo veut une chose de son contraire, mais je dirais que ce n'est pas le Congo qui veut une chose de son contraire. Ce sont ceux à qui ce genre de rapports sont destinés qui peut-être se reconnaissent être complices de ce grand mal. Mais alors, il appartient, mais des institutions comme le Parlement de la République ne devraient pas laisser sous silence ce genre de situation. Moi, ça m'a écœuré qu'après un grand travail fait par la commission Moutamba Dibwe, il y en a eu aussi avec le Tundula, il y en a eu autant de commissions qui ont été initiées à partir du Parlement et qui ont révélé des grandes aberrations, des grandes... j'allais dire des gabegies énormes du finances publiques qui sont déjà trop précaires, mais que malheureusement cela n'interpelle pas les grandes consciences de ceux qui ont la responsabilité de l'État. Moi je crois qu'il y a un sérieux problème et je crois que s'il y a un tel problème, il appartient au Parlement en priorité, qui est la représentation du peuple, de nous montrer que lui n'est pas non plus complice de ce détournement, de ces monstruosités qui se passent dans ce pays. Merci. Parce que comme tout le monde le sait, le DG de l'ITIE a dit que son initiative c'est pour essentiellement tous ceux qui sont dans le secteur de l'exploitation des ressources naturelles. Mais nous savons qu'en matière de dotation à ressources naturelles, mais le Congo, notre pays, a de quoi avoir un budget supérieur à celui des États-Unis d'Amérique, si on était sérieux.
Merci.
Mais on ne le fait pas. Pourquoi?
Merci, monsieur.
Parce qu'il y a beaucoup de complices à tout niveau. C'est ça le problème.
Pourquoi est-ce que tu m'arraches des choses dans ma bouche? Parce que voilà. Je connais très bien Michel, la DG de FENAPEC.
Allez-y, professeur.
Mais je voudrais vraiment revenir sur des choses très importantes que Bienvenue a dites ici et que Michel est revenu sur des choses. Mais la première chose, je vais vous dire ça, je suis africain, je suis congolais. Dans ma langue, il y a un proverbe qui dit que lorsque vous pouvez avoir une machette bien, bien tranchante, si vous la laissez dans un coin de la maison, elle ne peut blesser personne si vous ne l'utilisez pas. En fait, si les rapports ITIE ne sont pas utilisés par la société publique, par la société civile, si les rapports ITIE ne sont pas... Et Michel est revenu là-dessus. Si le Parlement s'était, nous avons l'obligation d'amener ces déclarations. Et ces déclarations sont librement livrées. Et tu sais, Alain.
Et d'ailleurs, professeur, sans vous arracher la parole, puisque vous l'avez, le procureur général de la République devrait d'office se saisir.
Non, ça, je voudrais tout de suite vous dire, Alain, si vous ne le savez pas. La première action du premier ministre, Matata Ponyo, qui est membre de l'ITIE, la première action qu'il a faite en devenant premier ministre, c'est instruire le procureur général de la République de faire une réquisition sur les écarts du deuxième rapport 2008-2009. Et ça, nous sommes fiers. Le monde entier, l'opinion internationale le sait, le procureur a requis des informations sur des écarts, des rapports ont été, et ils sont en train de travailler pour trouver pourquoi.
On les jugera au résultat. Prenons cette réaction qui nous vient d'Issirou en province orientale pour vous, professeur Doumba.
Félicien Poussou, à ICO, dans la province orientale. Je n'accepte pas personnellement les données qui sont offertes parce que les hélicoptères des expatriés que nous voyons voltiger à travers la forêt équatoriale à la recherche du diamant et de l'or échappent au contrôle du fisc.
Ils pensent que l'ITI a sous-estimé les chiffres, il y a plus de fraude fiscale en principe.
Alors, je voudrais rappeler à mon frère, la première chose, c'est que nous sommes un processus, une initiative. Nous y allons, mollo. Nous arriverons un jour à ce que toutes ces choses que vous dites que nous ne sont pas déclarées, les chiffres, on y arrivera. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que si la société civile a des informations, si la société civile est au courant d'une entreprise qui exploite et qui ne paye peut-être pas, nous en connaissons des entreprises qui exploitent mais qui ne payent pas l'État. La société civile doit faire le travail. Je rappelle que l'ITIE est une coalition des parties prenantes dans laquelle se trouvent le gouvernement, les entreprises, la société civile et aussi les partenaires au développement. La société civile a un grand rôle de témoin, d'arbitre, de régulateur. Si la société civile, comme mon frère le dit maintenant à ICIRO, il ne peut pas nous donner des informations, nous ne les aurons pas. Je voudrais vous dire que il y a plus de 8 entreprises qui ont toujours payé à l'État congolais, que nous n'avons pas pu déceler en 2007 et en 2008-2009. Si ce n'était pas que la société civile nous ait informé, il y a telle entreprise à tel endroit.
Professeur Mac Doumba, bienvenue. Marie Bakoumania a évoqué la faiblesse du code minier, ce code minier qui a totalisé 10 ans le 11 juillet dernier. Professeur, quel bilan vous faites de ce code?
Moi, je dis qu'il y a beaucoup d'améliorations qui sont apportées par ce ministre très efficace dans les entreprises minières. Je vous dis, Alain, est-ce que tu sais que nous sommes le premier pays dans l'Afrique noire où on a signé un arrêté rendant obligatoire les déclarations à l'ITIE? Il y a un arrêté dit arrêté Kabouéloulou qui oblige les entreprises de déclarer tout ce qu'elles payent à l'État.
Est-ce qu'elles le font toutes ces...
Maintenant, il y a un problème.
La pratique.
Qui couvre ces entreprises?
C'est qui d'après vous?
Je vais vous dire une chose. Les entreprises chinoises ne sont pas pour la transparence. Elles résistent lorsque vous allez leur demander de déclarer ce qu'elles ont payé. Les entreprises tenues par les Libanais, les Indiens, c'est difficile. Il n'y a que les entreprises occidentales qui déclarent clairement. Maintenant, nous disons ceci. Il faut que la société civile fasse son travail, que le Parlement... Mais Michel, je suis très fier de Michel. Il faut que le Parlement fasse son travail.
Bienvenue Marie Bakoumania, et à cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu pour vous.
Robert Bahome de Bukavu au sud Kivu. La déclaration de l'ITIE est grave et mérite une attention particulière de l'opinion dans la mesure où elle est révélatrice d'une chose vécue par plus d'un Congolais, à savoir la non-exécution effective du budget de l'État chaque année par manque de moyens financiers lorsque des millions de dollars issus de l'extraction minière ne sont pas curieusement versés dans les trésors publics.
Réaction, bienvenue Marie Bakoumania.
Il n'y a pas que l'ITIE, le premier ministre Matata Ponyo, lors de la présentation de son plan d'action devant l'Assemblée nationale, a révélé qu'il y avait le trésor public perdait comme ça 20 milliards de dollars américains. Il y a 20 milliards de dollars américains qui échappent au trésor public congolais. Et à côté, nous avons un budget je dirais, ridicule de 7 milliards de dollars américains. Et c'est ça, la vraie question. Pourquoi est-ce qu'on ne fournit pas les efforts nécessaires pour arriver à mobiliser cet argent qui échappe au trésor public? C'est de la responsabilité du gouvernement. Si le gouvernement ne le fait pas, si la justice, le procureur général de la République ne se saisit pas de ces cas avérés, des fraudes, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a que nos yeux pour pleurer, nous qui observons. Nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Et un arrêté ministériel pour obliger les entreprises à publier à faire des déclarations, c'est bien. Mais moi, j'aimerais que ce soit dans la loi. Si c'était dans le code, en ce moment-là, la tension est telle que les entreprises ont cette obligation. Et les Chinois, les Indo-Pakistanais, les Libanais, qui s'illustrent dans ces pratiques, ne vont pas s'y hasarder. Ils auront peur parce que c'est dans la loi. Mais si c'est dans un arrêté ministériel, je pense que entre une loi et un arrêté, sur le plan juridique, il y a ce qui pèse un peu plus. Et pourquoi est-ce que nous, en RDC, on peut se priver d'utiliser des instruments que la loi, que la législation en vigueur nous donne le droit d'en user?
Mais bienvenue Marie Bakoumania, on sait comment ça se passe, même s'il y a une loi, s'ils sont soutenus, s'ils ont des parapluies, tant pis pour la loi.
Mais écoutez, la force est à la loi. C'est ce que dit la Constitution. S'il y a des parapluies, ces parapluies sont où? Ben, ils sont dans le gouvernement. Ils sont dans les institutions. Les parapluies ne peuvent pas être ailleurs qu'au sein des institutions. Et s'ils sont dans les institutions, est-ce qu'on peut, on va affirmer que toutes les institutions congolaises sont pourries? Moi, je pense que dans ce pays, il y a des gens qui croient en ce pays. Il y a des dirigeants qui ont d'intérêt pour ce pays, qui voudraient que le pays puisse se développer. Ben, ceux-là, ils peuvent se mettre en mouvement et changer les choses.
Alors, le ministre des Mines, à l'occasion de la célébration des 10 ans du code minier, a précisé que le code révisé permettra au ministère d'atteindre ses assignations à l'horizon 2016, fixées à 25% au budget de l'État, alors qu'actuellement, le secteur minier ne contribue qu'à hauteur de 10%. Bienvenue Marie Bakoumania. Qu'est-ce qui devrait être révisé dans ce code?
Beaucoup de choses. D'abord, pour répondre au ministre, 25%, c'est pas ambitieux du tout. Hein. À la période de gloire de la GECAMINE prenait plus de la moitié du budget national. On a dépassé la GECAMINE. À mon sens, quand on a pris cette option, à mon sens, je m'étais dit, ils vont réaliser mieux que ce que faisait la GECAMINE à l'époque de la Deuxième République. C'est-à-dire que le secteur minier allait contribuer pour plus de 75% au budget national. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on a dépassé la production de la période de gloire de la GECAMINE. On est à plus de 500 000 tonnes de cuivre, par exemple, par an. Mais le budget, au budget de l'État, on ne contribue qu'à hauteur de 10%. C'est dire que on a bradé les richesses nationales. Aujourd'hui, on ne peut plus reculer. On les a bradées, c'est perdu, c'est de l'argent que nous avons décidé de laisser passer. Bon, moi je crois ce qu'il faut faire pour le code minier, parce que s'il faut entrer dans les détails de toutes ces choses-là, on prendra toute la soirée. Ce qu'il faut faire pour corriger, les corrections qu'il faut porter au code minier, c'est par d'abord la vulgarisation. Le code minier n'a pas été vulgarisé comme il se devait. Les administrations des mines, les administrations ne connaissent même pas les contenus, en dehors peut-être du cadastre minier. Les autres administrations ne connaissent rien du contenu de ce code minier. Ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Il y a une confusion entretenue sur le plan fiscal. Le droit commun est parfois appliqué par la DGI sur les entreprises minières, alors que eux, ils devraient relever d'une fiscalité spécifique aux entreprises minières. Il y a également cette absence de contrat type pendant une certaine période. L'absence de contrat type a fait que le code minier a conduit plutôt à la révisitation des contrats miniers, où on avait comme ça délivré à l'appel plus de 4000 titres à 600 et quelques entreprises, ce qui devrait scandaliser. Bon, en RDC, comme rien ne scandalise, on est arrivé au résultat qu'on a aujourd'hui, incapable de contribuer efficacement au budget de l'État. Et pour y réussir, il faut peut-être arriver à déterminer clairement, un peu plus clairement, le rôle des provinces, eux qui sont tout près des entreprises, et le rôle des communautés locales et de la société civile.
Merci, bienvenue Marie Bakoumania. Je rappelle que vous êtes directeur du desk économie au groupe de presse Le Potentiel et analyste économique. Michel Somoué, il y a cette réaction qui nous vient de Mbanzangungo Bakongo pour vous.
Pascal Kitenge, chef des travaux à l'ISP de Mbanza-Ongo. Depuis le Bas-Congo, je voudrais faire remarquer que ce n'est pas la première fois que de telles dénonciations sont portées à la place publique. Le premier ministre actuel, Matata Ponyo, était aux affaires, plus précisément aux finances. Et donc, je présume qu'il connaît suffisamment bien le problème. En conséquence, ce qui importe aujourd'hui, d'après moi, c'est de savoir ce que le gouvernement met sur pied comme mécanisme de contrainte afin d'éradiquer cette évasion financière.
Brève réaction, Michel Soumoué.
Oui, je crois que Pascal dit quelque chose qui n'est pas faux. Je dois dire la vérité, qui n'est pas faux. Parce que un des malheurs de notre pays, c'est que ceux qui sont supposés prendre des décisions se comportent parfois comme des accusateurs, comme des plaignants. Alors que nous attendons tous des réactions concrètes, des décisions concrètes, des orientations précises venant de leur part. Nous attendons des actions venant de la part, des actions qui reflètent l'exercice du pouvoir régalien. Mais on a souvent l'impression dans notre pays que quand un ministre prend la parole, il fait des analyses. Il se comporte comme un simple analyste et qui tombe dans les mêmes jérémiades et qui fait qui fait des analyses des faits et là où les gens attendent que lui prenne plutôt des décisions. C'est tout à fait vrai et je pense que le Premier ministre, s'il suit cette émission, s'il a entendu cette observation pertinente de Pascal Kitenge, devra en tenir compte pour ne pas, surtout que le gouvernement s'appelle l'équipe, le gouvernement des experts, etc., mais il ne faudrait pas que ce soit un gouvernement des analystes des situations qui ne prennent pas des décisions et qui attendent que les décisions tombent du ciel. C'est eux qui doivent prendre des décisions. J'ai été scandalisé un jour, lorsqu'un ministre du budget, qui a évolué plus tard avec des fonctions plus élevées, m'a répondu dans son bureau, au moment où je lui disais, « Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas vous complaire dans un budget minable de 2 milliards de dollars pour un pays aussi grand que le nôtre et qui a autant de problèmes que le nôtre. Il faut que vous preniez des décisions. » Et il m'a demandé quelles autres sources je pourrais lui proposer. Je lui ai proposé des sources de financement de son budget. Et je lui ai démontré qu'on pouvait aller à 5 milliards de dollars cette année-là. Mais monsieur le ministre me dira, malheureusement, je n'ai pas le pouvoir de prendre des mesures que vous me proposez, parce que ça, c'est des pouvoirs d'ordre politique. Alors moi, j'ai dit, mais je croyais que un ministre, c'était une autorité politique. Donc si vous me dites que ça, c'est un pouvoir politique que vous n'avez pas, alors je ne sais pas ce que fait le ministre. Ça m'a déçu et nous nous sommes séparés sur cette note-là, malheureusement. Je donne cet exemple pour dire que, pour justement confirmer ce que dit M. Kitenge, que nous devons faire un effort dans ce pays pour qu'un jour nous sachions qui est responsable de quoi, qui peut prendre une décision, qui ne peut pas la prendre, que nous ne puissions pas être tous des analystes pour sombrer tous dans la démonstration des causes et des conséquences sans qu'il n'y ait jamais personne qui prend la décision et qui la fait exécuter et qui en assume la responsabilité. Il n'y a personne qui assume une responsabilité dans ce pays. Et ça, c'est très grave. Quand on parle de l'ITIE, avec tous ces rapports qui sont révélés, après tout le monde a lu les rapports de l'ITIE, tout le monde va approuver ce rapport, tout le monde va reconnaître que tout ceci est grave. Et puis après, il n'y a rien. Mais qui doit prendre l'initiative? Ça, c'est une grande confusion qu'il y a et qui fait quand même quelque part preuve de l'absence de l'État, au fond des sauterelles qu'elles sont. On a l'impression que l'État, au vrai sens du mot, dans ce pays, se recherche encore. Il n'existe pas encore. Parce qu'il n'y a pas encore dans ce pays des hommes capables d'assumer des responsabilités, à part envoyer certains en prison. Ça, on sait, ça, on connaît. Le pouvoir coercitif d'envoyer les uns les autres en prison, ça, on sait, ça existe. Mais le pouvoir vrai pour gérer la nation, gérer les problèmes sociaux de base, prendre des décisions souveraines en tant que pays souverain, nation souveraine, en tant qu'État, ça nous ne le voyons pas.
Michel Soumoué.
C'est pour ça que tout le monde dit refondons l'État.
Michel Soumoué, bienvenue. Marie Bakoumania a proposé deux éléments qui devraient être révisés dans le code minier, notamment il faut penser à la vulgarisation et clarifier un peu le secteur fiscal ainsi que le rôle des provinces. Brièvement, il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission.
Je crois que le venu est allé trop loin. Il a enjambé beaucoup d'étapes, mais je pense que la première chose qui doit être révisée, à mon humble avis, c'est d'abord les principes fondamentaux, la philosophie même de ce code minier. Ce code minier, il est Djibouti. Ce code minier, il est conçu pourquoi? Parce que si le code minier n'est là que pour faciliter les investissements étrangers, il risque d'être une affaire conçue exclusivement pour les étrangers et favorise exclusivement les étrangers qui ne tient pas compte de la réalité de l'économie nationale et des besoins de l'économie nationale. Il faut repenser la philosophie même du code minier et savoir que la mise en valeur des ressources naturelles de ce pays doit d'abord être au préalable une affaire des Congolais. Merci. Et le code minier doit donc nous donner des indications précises pour nous montrer comment l'État entend stimuler l'activité minière par les Congolais. Merci. Eux-mêmes. Comment l'État entend-il stimuler, pousser les Congolais à s'investir dans la mise en valeur de toutes Merci. Ces ressources naturelles que...
Merci Michel Somoué, souffrez que je vous arrête, il nous reste moins de 4 minutes. Professeur Makdoumba, il faut changer la philosophie même du code minier, un code minier qui n'est pas adapté aux réalités congolaises. Qu'est-ce que vous en pensez?
Vous savez, moi je ne vais pas répondre sur une question de ce genre tout de suite si je ne peux pas dire que revenir sur cette politique d'actualité du chef de l'État, la révolution de la modernité. La révolution de la modernité, ce n'est pas avoir des routes, construire des maisons, avoir des hôpitaux égalant ceux des pays développés. La révolution de la modernité, c'est aussi la mentalité du public à se saisir du pouvoir qui est sien dans la démocratie. Lorsque le public ne peut pas lui-même se prendre en charge pour essayer de dire, de s'approprier ses propres richesses, ce n'est pas de la modernité. Parce que quand vous dites, je l'ai entendu ici, et bienvenue l'a dit, moi je reviens, ça, c'est important, il faut vulgariser le code minier, il faut que le code minier soit compris par le public. Mais notre public s'occupe de quoi? Les sociétés civiles s'occupent de quoi? Société civile, c'est devenu des entreprises où on peut avoir facilement des financements pour vivre, au lieu de s'occuper de la démocratie et du droit au public de connaître, de savoir et d'agir.
En guise de conclusion, professeur, qu'est-ce que les auditeurs et internautes qui vous suivent peuvent retenir du travail d'Étienne?
Nous, on va continuer à publier clairement tout ce que les entreprises ont dit, ont donné, et ce que l'État va dire au travers des régies financières. Et à travers ces déclarations, que le public se saisisse pour savoir qui dit vrai, qui dit faux, au travers du Parlement.
Bienvenue Marie Bakoumani, en guise de conclusion, quelles sont les impulsions qu'il faut donner pour que ça change?
Il faut que cette obligation devienne une obligation légale, il faut que ça soit contenu dans une loi, parce que il faudrait également que le gouvernement, que le code minier intègre cette obligation de transparence dans la loi, dans le code minier, et ça aiderait l'ITIE à se mouvoir un peu plus aisément, et la société civile, les médias, on en a besoin, parce que il y a beaucoup trop de magouilles dans ce secteur.
Il faut retoucher la philosophie du code minier, l'adapter au contexte congolais, a dit Michel Soua.
Je suis d'accord, totalement d'accord avec lui, mais je me dis, est-ce que ce ne serait pas un gros recul par rapport aux avancées que nous avons déjà consommées? Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant d'améliorer ce que nous avons maintenant, c'est-à-dire ce code minier, qu'on l'améliore plutôt que de faire table rase? Ça, c'est aussi une option à prendre et à décider.
Michel Somoué, conclusion.
Non, on n'améliore pas la démarche vers l'enfer. Il faut savoir retourner vers la bonne route et reprendre la route du ciel, c'est simple. Moi, je ne pense pas que parce qu'on est avancé dans le code minier, il faut qu'on continue avec les erreurs, qu'on fasse comme ça. Moi, je crois qu'il n'est jamais trop tard de faire le bien là où le bien est nécessaire. Et je crois qu'il faudrait que nous puissions, et c'est une politique qui nous est donnée, il faut que nous puissions repenser complètement le code minier. Nous devons le repenser et l'adapter, tenir compte des besoins du Congolais, tenir compte de l'importance du Congolais dans l'économie nationale.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Julien Nyamouini l'a supervisé. Dieudonné Nyangassa a été à la technique. Kevin Kouté, Samuel Kachak à la réalisation, à la présentation et à la coordination. Alain Hirung Mouchinj, au revoir.